Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un forum pour trouver son stage au 4 bis, interview pour annoncer le cycle Verdoyon avec un focus sur le spectacle Contre Nature. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage chez Pesca, restaurant rennais engagé pour le bien manger. Et puis, recommandation, une avant-première du film La Rivière à l'Arvor. Bienvenue dans l'Arène. Et comme chaque jour, on commence avec une info du jour que j'ai retenue pour vous. Là, c'est un rendez-vous à noter dans son agenda si on est étudiant et qu'on cherche un stage. Mercredi 8 novembre, de 13h à 18h, le 4 bis Information Jeunesse, tout près du métro Charles de Gaulle, organise son traditionnel forum recherche de stage dans le cadre des mercredis du 4 bis. Ça se passe donc au 4 bis, mais aussi à l'exploratoire qui est juste à côté. C'est le lieu consacré aux métiers et qui dépend du réseau des missions locales WeCare. Alors ce forum, c'est avant tout la possibilité d'être conseillé sur son CV et sa lettre de motivation, d'être guidé aussi pour découvrir des métiers, également de rencontrer des professionnels et des structures dans le champ du handicap, de la solidarité, des transports ou encore de la métallurgie. Enfin, ce forum sur la recherche de stage, c'est aussi un atelier avec des coachs spécialisés, et ça c'est sur inscription auprès de l'exploratoire. L'entrée sur cet événement est libre, programme complet à retrouver en ligne sur 4bis-ij.com. Et après cette info du jour, c'est le moment d'une interview. Sarah Dessin et Patrice Le Sec, bonjour.
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 Je vous présente Sarah Dessin, vous êtes responsable du service culturel de l'université Rennes 2 et vous coordonnez avec une collègue un cycle d'événements qui est consacré à l'environnement, ça s'appelle Verdoyon, et dans ce cycle, il y a notamment le spectacle Contre Nature, dans lequel vous jouez, Patrice Le Sec. On va commencer par parler un peu de Verdoyon, qui revient donc pour une quatrième édition. Ça a commencé le 6 et ça se poursuit donc du 6 novembre jusqu'au 6 décembre. On va commencer par parler de ce qui est proposé au grand public, donc au-delà des étudiants. On a déjà parlé du focus sur les algues vertes dans cette émission d'Info Locale avec l'exposition photo d'Alice Palot, qui est à voir jusqu'au 15 décembre. Et puis le BD concert de Mnémotechnique et Point, qui arrive la semaine prochaine, le 14 novembre. On peut peut-être dire qu'il y a d'autres choses en plus de ces propositions-là. Une projection encore à venir et puis une exposition à la BU, la bibliothèque universitaire.
Oui, c'est ça. Mercredi 15, on aura effectivement une projection sur le temps de midi qui est ouverte à tout le monde d'un cours qui s'intitule Les algues maléfiques, donc un film de zombies inspiré des algues vertes. Et une exposition donc, à la bibliothèque universitaire qui est coordonnée par ma collègue Catherine Pascal, qui est une exposition des planches de la BD d'Inès Lé et de Pierre Vanoff, avec des textes écrits par des chercheurs des universités de Rennes, Rennes 2 et Rennes, qui viennent illustrer et
prolonger
avec des propos scientifiques les planches de la BD.
L'autre proposition forte, c'est un partenariat avec GLAZ. GLAZ, c'est une première édition là, de rencontres internationales de la photographie qui vont bientôt commencer. Ça se passe du 16 novembre jusqu'au 7 janvier 2024. Donc ça court sur 2 mois. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez croisé vos programmations.
Oui, en fait, c'est un festival qui est en construction depuis presque 5 ans et qui met autour de la table un réseau de partenaires assez riche. Il y a une trentaine d'expositions qui sont présentées dans le cadre de ces rencontres. Pour certaines, elles ont déjà débuté, comme celle de l'Université Rennes 2, celle du FACT. Et l'objectif de ce festival, pour la première édition, le thème est urgence. Et évidemment, il s'agissait de parler des questions écologiques dans cette première édition, donc avec un partenaire. Il y a 2 choix pour l'Université Rennes 2 puisque nous accueillons nous-mêmes 3 expositions dans le cadre de GLAZ sur le campus.
L'une de ces 3 expositions, c'est l'exposition d'Alice Palot, donc autour des algues vertes qui est à voir en ce moment à la Chambre Claire.
Oui, elle est ouverte du lundi au vendredi à la Chambre Claire jusqu'à 19h tous les jours.
Autre thème abordé, la pollution des océans, la pollution plastique, avec Mandy Barker qui sera présente la semaine prochaine pour une table ronde. C'est une Britannique et elle va venir parler de son travail donc la semaine prochaine.
Tout à fait, son exposition est visible sur les murs extérieurs de l'université depuis le début de l'année, donc depuis septembre. Mais elle nous fait le plaisir et l'honneur parce que c'est une personnalité importante qui a exposé et travaillé dans le monde entier sur cette thématique de la pollution marine par les déchets plastiques. Et elle nous fait donc le plaisir de venir le 16 novembre pour une rencontre, une discussion d'une heure au Tambour en lien avec l'exposition qui est présentée sur le campus et dans le cadre de l'inauguration de glace qui a lieu le 16.
Et la rencontre débutera à 17h donc au Tambour sur le campus de l'université Rennes 2. Un autre Britannique tiens, qui est aussi l'invité à travers une exposition, c'est Lévis Bush. Là c'est à voir à la galerie RSA. On redit peut-être où elle est cette galerie ?
La galerie RSA, c'est la galerie d'art contemporain qui se situe sous la bibliothèque universitaire et il faut en profiter puisqu'elle va être fermée à partir du mois de février pour quelques mois, quelques années de travaux importants justement en lien avec les questions écologiques puisque l'université déploie un gros programme de réhabilitation de ces bâtiments pour une meilleure gestion notamment des températures des bâtiments. Et donc dans ce cadre, la galerie s'est fermée, donc c'est l'une des dernières expositions qu'on peut voir en tout cas dans les murs de la galerie RSC, donc il faut en profiter. C'est le vernissage à 18h juste après la rencontre avec Mandy.
Et le nom de cette exposition, celle de Lévis Bush, c'est Counter Power, qui est à voir du 17 novembre et jusqu'au 22 décembre et qui explore là les formes de pouvoir contemporain. Ensuite, bon, il y a plein d'autres choses à annoncer. Le détail est à retrouver en ligne sur le site culture.service.unif-rennes2.fr. Notamment à venir une conférence sur la pollution de l'eau, la présentation du livre Silence dans les champs du journaliste Nicolas Legendre, qu'on a déjà exploré dans le détail dans cette même émission. Plus original, là, une action très, comment dire, concrète, puisqu'il s'agit d'une plantation qui aura lieu tout début du mois de décembre. On s'arrête là-dessus. Elle est portée par qui, cette idée? Ça vient d'où?
Alors le programme Verdoyant, c'est un programme qui est depuis sa naissance en fait porté par trois services, la mission développement durable, le service culturel et la bibliothèque universitaire. Et là c'est un projet qui est porté par la mission développement durable qui est au sein de la DREAM, un service de l'université. Et donc ça clôture en quelque sorte Verdoyant avec cette proposition de plantation d'une micro-forêt, puisque dans le plan développement durable et responsabilité sociétale de l'établissement, il y a sept objectifs et dont un qui est de travailler à la préservation des espaces naturels et à l'amélioration des espaces naturels et paysagers sur le campus. Et alors on y répond pleinement avec cette proposition à laquelle tout le monde peut s'associer.
Une proposition qui est rendue possible notamment grâce aux étudiants de la licence pro paysage, et il y aura des enfants aussi qui seront présents.
Tout le monde est invité à y participer, comme il y a aussi beaucoup de liens avec le quartier Villejean. Voilà, il y a des collaborations et donc tout le monde peut venir planter des arbres le 6 décembre à Rennes 2.
Verdoyant, ce sont aussi des choses, on le dit rapidement, des choses qui sont proposées en interne aux étudiants et au personnel de l'université. Pêle-mêle, il y aura des tables thématiques dans les bibliothèques universitaires, une collecte de téléphones usagés, des ateliers et aussi des visites. Et c'est le moment où on s'arrête donc sur une proposition en particulier qui est montrée sur scène cette semaine. Je me tourne vers vous, Patrice Lesec. Vous êtes à la fois auteur et comédien dans la compagnie Tra Le Mani, c'est bien prononcé ?
Oui, c'est bien de prononcer, oui. C'est de l'italien, ça veut dire « entre les mains ».
Tra Le Mani, qu'on retrouvera sur la scène du Tambour ce jeudi, donc le 9 novembre, avec Contre Nature, c'est le nom du spectacle. On présente le reste des équipes, deux autres hommes autour de vous pour monter ce spectacle.
Contre Nature, c'est un théâtre récit photographique qui a été écrit par Alexis Fichet. À partir des échanges qu'on a pu avoir avec François Lepage, qui est photographe, et moi-même, qui suis comédien metteur en scène. Donc voilà, à partir de nombreux échanges, Alexis a écrit ce texte Contre Nature. Donc un échange autour de photographie. François Lepage, qui habite aussi autour de Rennes, on est tous les trois autour de Rennes. En fait, François Lepage a réalisé de nombreuses photographies en Antarctique et aussi dans les réserves naturelles. Et donc c'est un partage avec ses photos à lui et les miennes. Les miennes, c'est plutôt des photos d'albums, albums de famille. Et voilà, c'est cet échange qui est proposé. Et puis nous sommes aussi accompagnés donc de Marie Roussel pour la création Lumière. Et voilà, et aussi dans l'équipe, il y a aussi Martina Menconi qui co-dirige la compagnie avec moi et Anne-Lise Kieffer qui est en charge de la production.
donc toute une équipe pour construire ce théâtre récit photographique. Alors c'est amusant parce que François Lepage justement était passé en studio à Canal B au printemps dernier pour présenter sa bande dessinée ou roman graphique sur le thème de l'habitat partagé, et il revenait, il avait été coincé un petit moment en Antarctique. Et ben on y arrive en fait à ce territoire dont il revient, puisque c'est le point de départ de ce spectacle, le retour de François Lepage d'Antarctique, et puis un peu aussi votre retour à vous en Bretagne après une vie parisienne. C'est quoi la part de fiction? Est-ce qu'il y en a, ou est-ce que c'est complètement autobiographique?
Donc déjà pour préciser, c'est François Lepage, c'est le photographe. Donc on va partager ensemble le plateau. Et vous avez dû recevoir Emmanuel.
Ah, c'est Emmanuel Lepage, j'ai fait le...
son frère, voilà. Et ensemble, ils sont partis en Antarctique et ils ont créé la bande dessinée La Lune est blanche. Donc là, c'est François qui est sur scène avec moi. Et oui, en fait, on se base tous les deux sur des échanges personnels qu'on a pu avoir, François et moi. On était le long du canal d'Ille-et-Rance, donc au niveau de Saint-Germain-sur-Ille, donc à une demi-heure au nord de Rennes. Et donc, c'est le point de départ des discussions qu'on a eues avec François. François qui revenait d'Antarctique, qui découvrait en fait ces paysages absolument incroyablement blancs. Et où il devait faire du coup de la photographie, il n'y a pas d'animaux, pas de végétal, et donc il me partageait en fait ce que lui a renvoyé cette expérience auprès des scientifiques et dans le convoi du RAID qui va vers la station Concordia. Donc ça lui a amené beaucoup de questionnements, quelques hommes et femmes comme ça qui peuvent marcher sur ce grand continent blanc. Et quand François me disait ça, à un moment donné, je lui dis « bah, je comprends tout ce que tu me dis, mais avec ma tête, parce que moi je me sens nul en nature ». Donc François, ça l'a fait rigoler, il me dit « bah, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas être nul en nature ». Et moi je lui disais « bah, je ne sais pas, c'est comme ça que moi je me dis les choses, parce que j'ai l'impression de toujours avoir un train de retard sur ces questionnements-là. J'ai l'impression que bah, voilà, je ne sais pas par exemple si on peut trouver qu'un champ de colza qui est nourri à l'engrais chimique, si un champ de colza c'est beau ». Est-ce qu'on a le droit de trouver ça beau ou pas? Donc on a eu différents échanges comme ça, et on avait vraiment à la fois des endroits qui convergeaient et aussi des regards très différents. Et on a eu l'envie d'en parler, et on s'est dit que Alexis Fichet serait la personne idéale pour nous accompagner. Alexis travaille sur ces questions écologiques depuis une vingtaine d'années avec sa compagnie Lumière d'août.
Il a notamment aussi écrit les fables du Belon, je ne sais plus comment on le prononce, mais avec Eau et rivières de Bretagne, avec un projet d'atlas où il a écrit sur les rivières. Donc il a cet attrait-là quoi, pour les environnements naturels.
Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est une lecture que je fais avec Alexis, les fables du Belon et les poulpes. Oui. Donc Alexis a cet intérêt en se promenant pour la nature, d'observer la nature. Il a aussi l'intérêt scientifique, et aussi il a cet humour. Donc c'est aussi des choses que l'on retrouve dans le spectacle. Nous avons à cœur en fait de donner un propos accessible à partir de récits personnels, et aussi avec, je l'espère, poésie, sensibilité et aussi humour, parce que c'est aussi une façon d'aborder ces questionnements qui sont essentiels, vitaux pour nous aujourd'hui, et donc du coup pour le partager au plus grand nombre.
Vous êtes décrit comme celui qui est en transition dans la présentation donc de ce théâtre-récit et le dialogue dans le spectacle. On nous dit qu'il se nourrit à la fois du lointain avec les photographies donc de François Lepage, et puis d'ici, donc les photographies, il y en a aussi du supermarché de la Nestère. Vous venez de ce coin-là, hein, c'est ça, du Morbihan?
C'est ça, je viens du Morbihan. Et donc en fait avec François, il me disait « mais en fait, mais quand t'étais tout petit, t'aimais pas aller regarder les animaux, comment c'était foutu, une grenouille, etc. » Et moi je lui disais « mais pas du tout. Moi, mon rapport à la nature, c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre un peu du gluant, du visqueux. Enfin, c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout. » Et en réfléchissant, je lui dis « mais moi honnêtement, François, moi, mais... mon souvenir, ce qui me faisait
rêver
quand j'étais petit. » Et en fait, je lui ai dit, bah, en fait, c'est cette galerie marchande du supermarché Rallye à la Nestère. Donc voilà, j'y allais tous les mardis soirs avec mes parents. Donc je viens pas non plus d'une grande zone urbaine où j'avais pas du tout accès à la nature. Au contraire, la nature, elle était autour de moi. Mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents avaient leur potager, mais j'ai l'impression qu'en fait, je n'ai pas reçu ça. Il y a quelque chose qui s'est pas transmis. Et voilà, c'était aussi un point de départ, un élément qu'on voulait transmettre avec... avec François.
Quelle réflexion il sert ce dialogue? On a peut-être justement besoin des deux, d'avoir de très belles photographies, de choses spectaculaires, mais qui peuvent nous sembler un peu éloignées de notre quotidien, et d'avoir le regard de quelqu'un qui a connu la ville, qui revient avec l'envie peut-être d'essayer de redécouvrir un territoire rural avec peut-être plus de sensibilité, ou en tout cas d'intime par rapport à des photos qui sont juste spectaculaires, quoi.
Pour avoir vu le spectacle à sa création, je pense que ça nous renvoie tous au fait qu'on a tous un rapport à la nature et qu'il suffit juste de le reconscientiser et qu'elle est autour de nous et qu'il est nécessaire de se reconnecter. Et que oui, il y a la nature idéalisée par la photographie parfois, ou voilà, qui est lointaine, mais elle est aussi dans notre quotidien à toutes et tous, quoi.
Puis on n'a pas le même point de départ entre François qui est allé en Antarctique et moi qui ai fait du foot au terrain de foot dans un Zinzac le Christ. On vient pas du même point de départ. Et en fait, enfin, rien que le mot nature, c'est un terme humain qui fait qu'on s'en dissocie. Donc d'amener différentes paroles, je crois, est essentiel aujourd'hui par rapport à la crise que l'on traverse, par rapport aux engagements dont on a besoin chez chacun et chacune. Et en fait, c'est comment on va venir toucher aussi par le sensible le plus grand nombre.
Le spectacle donc est présenté cette semaine, jeudi 9 novembre au Tambour, donc sur le campus de l'université Rennes 2. On peut aussi dire qu'après le spectacle, il y aura un échange proposé avec l'équipe artistique et qui sera animé par Véronique Van Tilburg. Elle est professeure de sociologie à l'université Rennes 2 et, si je dis pas de bêtises, François Lepage travaille avec elle sur un projet photographique, Réserve, Dialogue avec le monde naturel, c'est son nom. Ce spectacle, il a donc été créé en résidence à l'université Rennes 2. Là, vous le jouez devant le public. C'est quoi le futur de cette proposition contre nature?
Oui, on a eu la chance d'être accueillis donc en octobre l'année dernière par Sarah et toute l'équipe du service culturel de Rennes 2, que je remercie beaucoup pour leur accueil à tout point de vue. C'est vraiment très agréable de travailler au Tambour. Et nous avons eu aussi d'autres partenaires pour créer le spectacle, comme le Théâtre de Poche de Hédé Bazouge ou la MJC Passé ou le Théâtre du Cercle à Rennes. Nous avons créé le spectacle en mars dernier. Et donc là, on est en train de travailler pour construire la saison 2024-2025. Et donc cette date de jeudi est importante pour nous, pour faire aussi, dans notre travail de jeune compagnie, pour faire venir aussi des programmateurs, des diffuseurs de festivals ou de théâtres, pour continuer en fait la diffusion du projet.
Je vous représente, donc Sarah Dessin, vous travaillez au service culturel de l'université Rennes 2. Vous coordonnez là ce cycle d'événements qui est consacré à l'environnement qui s'appelle Verdoyon. Ça se passe depuis le 6 novembre et jusqu'au 6 décembre, donc sur le campus de l'université Rennes 2. Et c'est dans ce cycle qu'est présenté le spectacle Contre Nature dans lequel vous jouez Patrice Lesaec. C'est montré au public jeudi 9 novembre et les tarifs vont de la gratuité jusqu'à 15 euros. La billetterie est à retrouver en ligne sur culture.service.unif-rennes. Et il reste encore des places au moment où on se parle. Patrice Lesaec, vous souhaitiez terminer sur un tout autre sujet, mais qui est en lien avec la culture. Vous souhaitiez dire un mot sur la mobilisation des intermittents du spectacle opposé à l'évolution de Pôle emploi en France Travail qui est attendue pour le début d'année 2024. Ces intermittents redoutent d'y perdre dans la refonte des règles de l'assurance chômage et une manifestation est organisée ce jeudi à partir de 11h.
Oui, je vous en remercie du coup à cette urgence de justice climatique. On a aussi une nécessité bien évidemment de justice sociale. Et donc c'est pour cela qu'on se retrouve ce jeudi 9 novembre à 11h au Mile François Mitterrand à Rennes. Donc pour la mobilisation prévue pour maintenir les droits liés à l'intermittence du spectacle. Je vais juste vous en parler très rapidement. En fait, le gouvernement redéfinit l'ensemble des règles de l'assurance chômage et va demander 12 milliards d'euros sur 4 ans pour financer en partie France Travail. Donc pour vous dire, c'est qu'il y a deux négociations qui se font en même temps, une négociation interprofessionnelle et une négociation spécifique aux intermittents et intermittentes du spectacle. Donc cela concerne donc tous les secteurs, tous les demandeurs et demandeuses d'emploi, mais aussi donc bien évidemment tous les salariés. pour les intermittents et intermittentes du spectacle, l'État veut faire 15% d'économie, donc cela pourrait être un durcissement des conditions d'accès au statut, une diminution de l'indemnité journalière ou une diminution du nombre de jours d'indemnisation. Donc pour rappeler que les artistes et techniciens, techniciennes du spectacle, nous on est intermittents et intermittentes de l'emploi, donc on travaille pour par exemple créer des spectacles, des concerts, des films, séries, pour faire exister des festivals. On fait aussi de l'audiovisuel pour retransmettre par exemple des matchs de foot. Donc il y a toujours de nombreuses baisses de financement que subit régulièrement le secteur culturel, et nous devons aussi lutter contre ces régressions sociales et la casse de l'assurance chômage. Donc l'assurance chômage repose bien sûr sur la solidarité interprofessionnelle, et il est important que nous nous mobilisions pour continuer à faire notre travail au mieux. Donc voilà, un autre rendez-vous, c'est jeudi 9 novembre à 11h au Mail François Mitterrand à Rennes, et donc nous y serons aussi le matin.
Et on pourra enchaîner et aller voir votre spectacle, donc le même jour, le jeudi, au Tambour, à partir de...
De 20h, donc c'est tout public à partir de 14 ans.
Voilà. Merci beaucoup Sarah et Patrice.
Merci.
Merci.
Out near the town, there's a guy that comes around. His feet hit the ground, but his legs just wiggle around. Go gather around, and his feet just hit the ground. Go gather around, go gather around.
Kernel avec le morceau Ciao sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur, et à retrouver sur un album Drum to Death qui est sorti chez On the Kemper Records le 13 octobre. Et c'est le quatrième disque pour ce groupe de rock helvético-canadien. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B. Allez, on continue avec un reportage. Alors pour être honnête avec vous, moi j'avais en tête de réaliser une série de reportages à la rencontre de restaurateurs du collectif Nourriture, mais le seul retour positif que j'ai eu, c'est celui de Clémentine Guillois du restaurant rennais Pesca. L'échange que vous allez entendre, il a été enregistré fin août. Alors les produits évoqués, comme ils sont de saison, bien ils sont plus forcément à la carte aujourd'hui. Mais la passion de la patronne, j'en suis sûre, elle est toujours intacte. Reportage donc pour mettre en lumière un projet qui est engagé du produit à l'assiette, en passant par les petites mains qui s'affairent en cuisine. Et pour info, Pesca est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir.
Là, je suis en train de nettoyer tout parce qu'on a fait du poulpe. Et parce que ça y est quand même pas mal.
Ça en fout partout.
Ouais, parce qu'on le passe au robot pour, avec du gros sel pour un peu le nettoyer. Mais clairement le nettoyer, sauf que le robot il est pas hyper gros et les poules sont assez gros.
Donc ça laisse un petit jus noir partout.
De ton filet sans poisson, mi-poisson.
Donc je suis Clémentine Billois, la gérante fondatrice du restaurant Pesca à Rennes, qui est un petit bistrot rue de Saint-Malo qui est spécialisé dans les produits de la mer. Donc poissons, mais aussi coquillages, algues, plantes marines. Alors moi j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art et j'en suis venue à la restauration au départ de manière très mécanique parce que c'était un petit boulot d'été et puis ensuite parce que j'ai réussi à faire un pont assez évident pour moi entre les œuvres d'art et les assiettes qu'on pouvait proposer de manière à démocratiser un petit peu cet accès au beau et au bon. Et du coup, voilà, ça m'intéressait de pouvoir essayer de faire une proposition un peu nouvelle sur les produits de la mer à Rennes, qui est ma ville, j'y suis née, et qui manquait, selon moi, de propositions sur ce sujet-là.
Il y a eu un besoin de formation avant d'ouvrir un établissement pour la première fois?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai un CAP de cuisine, donc je me suis formée en cuisine sur Rennes. J'ai travaillé chez Jacques Fabi au cours d'Hélice, anciennement, qui est devenu Show Shop maintenant. Et puis une formation aussi à travers les rencontres, les collègues. On a la chance à Rennes d'avoir un bassin avec des gens qui sont très généreux. Donc voilà, j'ai pu apprendre aussi à leur contact. Donc,
votre établissement, il a ouvert au moment de la crise sanitaire, un peu avant. C'était quoi le timing?
Ouais, c'était ouvert un peu avant. Ça a ouvert exactement en janvier 2019. Et puis, c'était fermé lorsque moi, j'ai repris. La rue de Saint-Malo était un peu en renouveau à ce moment-là parce qu'il y avait eu tous les travaux de la place Sainte-Anne. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir accès à un local avec des finances moindres. Et puis de s'installer. Et voilà, on a dû fermer un an et demi à peu près après l'ouverture. Et puis ça a vraiment bien repris au moment du déconfinement en fait.
Ça a eu quoi comme impact sur la santé de votre restaurant? C'est facile de s'en remettre trois ans après le début de la crise sanitaire?
C'est ce que je dis, je pense que je suis la pire personne pour inciter les gens à monter un établissement parce que j'étais toute seule et que ça a été quand même des moments assez douloureux. Que j'avais la chance d'être logée, donc de ne pas avoir de loyer à payer. Mais oui, ça a été une période où j'ai vécu avec 200-300 euros par mois. Donc un effort quand même qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire parce que je suis en couple, parce que vie de famille. Et voilà, c'est des gros sacrifices quand même, ouais.
Mais vous me le confiez juste avant qu'on débute l'entretien, les gens reviennent, il y a beaucoup de monde à venir dans votre restaurant aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est que c'est des sacrifices qu'on payait en fait. Il y avait une volonté aussi de travailler, j'espère du mieux possible, et je pense que oui, ça, c'est à un moment donné, ça a forcément une répercussion dans l'assiette. Et en tout cas, les retours qu'on peut avoir de nos clients sont plutôt très positifs.
On présente les équipes justement qui sont autour de vous dans ce restaurant. Il se trouve que la question relationnelle, elle est au cœur du collectif Nourriture dont on va parler juste après. Donc on les présente. Qui sont-ils?
En cuisine, je travaille en étroite collaboration avec Pauline Yafrat, qui est une femme de 34 ans, maman d'une petite fille depuis peu, qui est arrivée avec moi il y a un peu plus de 2 ans. Et s'occupe de toute la partie de cuisine, on va dire. Avec elle, du coup, Clément Moto, qui est arrivé avec nous à peu près dans les mêmes timings, pardon. On a cette année, pour la première fois, un apprenti, Damien Le Goff, qui arrive de Kerlan, du campus de Kerlan. Et puis, côté salle, je travaille avec Margot Brier, qui a une formation initialement de cuisine, qui s'est formée ensuite dans le vin et donc qui travaille en salle avec moi aujourd'hui. C'est ma responsable de salle.
Quel choix vous avez fait sur la cuisine? C'est le moment où on peut parler des produits, où vous vous approvisionnez, et puis sur ce qu'on retrouve dans l'assiette, une fois transformé.
Au tout départ, le constat a été fait qu'en fait, certaines espèces qu'on trouvait vraiment un peu partout dans les restaurants étaient très chères. Donc, on les connaît tous, hein, c'est la sole, le bar, le turbo, la barbu. Nous, c'est des espèces qu'on a mis de côté. Moi, j'ai voulu vraiment valoriser ce qu'on appelle les espèces raisonnées. Donc, dans les plus connus, on va parler du maquereau, de la sardine. Dans les moins connus, il va y avoir le mulet, qui acquiert petit à petit ses lettres de noblesse depuis quelques années. Le mulet, la vieille, le grondin, voilà. Tout un tas de poissons comme ça que les gens connaissent pas peu, mais qui sont encore en abondance dans nos océans. Donc ça, c'était le premier travail de sourcing. Le second, c'était de pouvoir... avoir un circuit court sur les approvisionnements de la mer, c'est-à-dire qu'on est à Rennes, donc au centre d'un vivier d'océan et de mer qu'on peut panier. Et en fait, moi, quand je me suis installée, sur les 4 mareyeurs avec qui il m'était proposé de travailler, seulement un ne faisait pas passer son poisson par Rungis, ce que je trouvais complètement aberrant.
Puisque... C'est-à-dire que le poisson qui vient donc des côtes bretonnes part à Rungis avant de revenir ici?
Ouais. Quand c'est Paragis, c'est Boulogne, mais enfin voilà, c'est des kilomètres en plus, voilà, qui sont des logiques vraiment de grossistes en fait, pour pouvoir dispatcher les choses plus facilement avec des transporteurs, mais qui franchement sont complètement hérétiques vu où on est, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler avec un marieur qui lui centralisait ses achats sur Rennes. Et puis ensuite, effectivement, est venu petit à petit le désir d'accroître la qualité et la saisonnalité de ce qu'on pouvait trouver. Donc on a tout de suite démarré une collaboration avec Éthique Océan, une association de l'Union européenne qui vise vraiment à protéger et à informer en fait les professionnels, mais aussi les particuliers, justement sur quelles sont les espèces menacées, quelles... poisson on peut manger sans voilà, accroître la surconsommation. Et cet outil-là, donc ça s'appelle le guide des espèces, a été très très précieux et nous a permis justement aussi de valoriser les techniques de pêche qui sont moins destructrices pour les fonds marins. Je pense notamment à la coquille Saint-Jacques, qui est un des bastions bretons les plus connus. On en consomme tous énormément en pleine saison et la plupart d'entre elles sont pêchées à la drague. Donc il faut savoir que la drague, le problème de ça, c'est que ça racle vraiment tous les fonds marins et donc avec tous les écosystèmes qui sont présents dans les fonds. Donc une des alternatives, c'est de travailler avec de la pêche en plongée. Donc là, on a la chance d'avoir deux merveilleux pêcheurs. La personne de Velga, qui est un bateau de pêche à Saint-Malo, qui nous pêche 2 fois par semaine en saison des coquilles qui sont magnifiques et qui ont vraiment tout un tas d'atouts que n'ont pas les coquilles de drague.
Proposer une cuisine de saison quand on parle de pêche, ça veut dire qu'il y a une assiette qui change tout au long de l'année. On pense moins à la saisonnalité des produits de la mer, il y en a une?
Ouais, tout à fait, il y en a une. Il y a des poissons qui s'éloignent des côtes pour des histoires de reproduction, de température de l'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle une saisonnalité régulée, c'est-à-dire que, heureusement, on va dire, l'État préserve à certains moments, justement, les moments de reproduction. Je pense par exemple à la Saint-Jacques, hein, il y en a évidemment tout au long de l'année dans les océans, mais voilà, il y a une période pour la pêcher au moment où elle a atteint ce qu'on appelle la maturité sexuelle, pour pouvoir les pêcher et où elle a pu se reproduire. C'est le cas de plein d'autres espèces.
Pour être très concret, on peut dire ce qu'il y a à la carte.
Alors en ce moment, il y a du poulpe. Donc ça, le poulpe, c'est une des espèces qu'il n'y avait pas quand j'ai commencé sur les côtes bretonnes, qui est vraiment arrivée avec le réchauffement climatique. Donc qui a du bon, hein, parce que c'est très bon. Après, ouais, c'est une espèce qui est très invasive et qui se nourrit de beaucoup d'autres aliments dont les coquilles, en fait, les essaims de coquilles. Donc, il est très bon de manger du poulpe pour réguler un petit peu cette arrivée opportune. On a également du thon, c'est la saison du thon, là. Donc, thon rouge, thon blanc, bonite, on en trouve sur nos côtes. Le thon rouge a longtemps été une espèce en voie de disparition. Il y a eu des quotas drastiques, des systèmes de passeport de poissons qui ont été mis en place et qui permettent aujourd'hui, justement, après, je crois que c'est 5 ans de régulation, d'avoir justement une espèce qui prolifère. Donc, comme quoi ça marche. Et puis, on a également toujours à la carte un filet de poisson qui change en fonction des retours de pêche. Donc là, on a reçu du lieu jaune ce matin. Donc, notre carte, elle est articulée en 3 parties. Donc, la partie des tapas marines. Donc, ça, c'est l'équivalent des entrées chez nous. Avec plein de petites assiettes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir goûter, découvrir des choses lorsqu'on est un peu frileux, on va dire, sur toutes ces espèces raisonnées. Et puis ensuite, il y a effectivement ces 3 plats dont je vous parlais et 3 desserts. En ce moment, on a un chocolat aux algues. Donc, les algues amènent un petit côté un peu iodé qu'on connaissait avec le caramel au beurre salé. Voilà, on le réinvente un peu avec un petit pesto de laitue de mer. Il y a également un petit esquimau qu'on fait avec de la cerise et puis une ganache à la cardamome noire fumée. C'est épicé art Tanguy qui travaille sur la partie épices et qui nous ramène des épices de petits producteurs à travers le monde. Et le troisième, c'est une île flottante avec des abricots confits, avec un peu de romarin, une petite crème anglaise aux herbes.
Alors, ça représente combien de producteurs en tout pour arriver à toutes ces assiettes?
Évidemment, il y a des gens avec qui on travaille que quelques mois dans l'année. Je pense à notamment Aline Passilly qui travaille sur les fruits rouges. Donc là, c'est vraiment une période qui est très courte, pendant 3 mois. Et donc là, on va passer sur la saison des agrumes avec Mathieu Vessière, donc pour tout ce qui est citron, orange, agrumes. Donc ouais, je dirais qu'il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine, 20-30 différents.
Vous êtes depuis le début dans le collectif Nourriture. Vous êtes arrivé à peu près au lancement. De quelle façon est-ce que vous avez rejoint cette dynamique?
En fait, ça part d'une réunion, enfin un rendez-vous qui a été fait entre collaborateurs, restaurateurs, pâtissiers et journalistes, en la personne d'Olivier Marie, pendant le confinement, où on avait le temps de se réunir, où le constat avait été fait qu'effectivement, sur Rennes, il y avait une dynamique qui était commune à beaucoup d'établissements sur le mieux manger, le mieux se fournir, le mieux sourcer. Et en fait, on s'est dit que ce serait intéressant de structurer un petit peu cette manière qu'on avait là de travailler, de la diffuser aussi, parce que en étant des petits établissements, le constat était fait aussi qu'on allait beaucoup plus vite lorsqu'on était plusieurs à réfléchir chacun de notre côté sur des sujets différents.
Sur quel point ?
Sur plein de sujets, et notamment tout ce qui est RSE.
Responsabilité socio-économique.
Ouais, c'est ça. C'est le mot un peu à la mode en ce moment, mais voilà, les fournisseurs énergétiques, comment faire en sorte de valoriser ces déchets, je pense par exemple au compost, tout ça, c'est des petites choses qui semblent très anodines, mais qui finalement, pour une entreprise et la vie d'une entreprise, nécessitent un temps et une étude de marché qui est vraiment longue et fastidieuse. Donc il y a eu ça, il y a eu la réflexion sur les horaires, qu'est-ce que c'est 4 jours par semaine dans la restauration, comment être une femme, comment développer une famille sans que ça soit un problème dans des milieux où on travaille beaucoup le soir. Voilà, tout un tas de questions sur lesquelles, évidemment, quand on a 10 cerveaux, ça va beaucoup plus vite que quand il n'y en a qu'un.
Ce collectif Nourriture, c'est une charte avec plusieurs engagements, notamment celui d'atteindre les 50% de produits locaux. Et puis, c'est aussi des projets menés en commun pour parler organisation. Les restaurateurs sont sur des groupes WhatsApp. Et puis, selon les projets que chacun souhaite développer, ça communique comme ça sur son téléphone.
Ouais, c'est même un Slack
qu'on a.
Alors un Slack, il faut expliquer.
Nous aussi, on a eu du mal à comprendre ce que c'était. Donc c'est en gros comme un WhatsApp, mais avec des items comme un...
Thématiques.
Ouais, des thématiques qui peuvent être partagées par les uns et les autres. Et sur lequel, effectivement, on peut échanger des documents et communiquer plus facilement. En gros, effectivement, le collectif, on a rédigé donc, un manifeste qui est scindé en trois thèmes. Donc un premier thème qui est plutôt axé effectivement sur les produits. Un autre item qui est plutôt axé sur le social, donc nos collaborateurs. Et un autre qui est plutôt tourné vers l'extérieur, la ville, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte ensemble de faire des actions sociales plus pertinentes. À l'intérieur de ces items-là, il y a effectivement des groupes de travail qui sont plus ou moins avancés. Mais effectivement, il y a par exemple une liste de producteurs qu'on est en train d'établir avec comment sont fournis, par exemple, certains producteurs en énergie. Enfin, on essaye de vraiment pousser la qualité, on va dire, de cette liste au maximum. Sur l'extérieur, je sais que par exemple, il y a un groupe de travail qui travaille sur les prisons, prisons des femmes, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces structures-là, pour pouvoir proposer aussi à ces gens-là des produits de qualité. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de chantiers avec des petits groupes comme ça qui s'y a à faire. C'est à peu près 2-3 personnes qui sont dans 2 groupes maximum et qui avancent sur ces sujets.
C'est difficile de trouver du temps dans un quotidien qu'on imagine intense quand on est restaurateur.
Là, c'est sûr qu'à 20 et quelques personnes, il y a une inertie qui est beaucoup plus lourde, bien entendu, pour mettre des choses en place. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas faisable et qu'il faut y renoncer. C'est-à-dire que oui, c'est très difficile pour nous de trouver du temps parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, parce qu'évidemment, le peu de temps de libre qu'on a, on a envie de le consacrer à nos familles. Mais on a trouvé voilà, un système... On se voit 4 fois par an, donc c'est une fois par trimestre où on fait une grosse réunion où chacun fait un peu la synthèse des recherches qui ont été faites durant les 3 derniers mois. Et ce qui permet quand même d'avancer, même si c'est pas à une vitesse éclair.
Une dernière question sur le volet garde d'enfants, qui est un des chantiers qui vous intéresse et vous travaille. Quelles sont les possibilités que vous envisagez? Donc on comprend dans un contexte où vous travaillez à des horaires atypiques, sur des jours aussi atypiques dans la semaine. Quels sont pour le moment les éléments que vous avez pour avancer là-dessus?
Ben aujourd'hui, on en est au début. Donc le constat est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, la charge... du congé maternité, c'est pas quelque chose qui se partage avec les hommes, donc il faut forcément à un moment donné que nous on puisse s'arrêter et avoir un moyen de garde assez rapidement pour pouvoir reprendre nos métiers. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est compliqué à trouver pour tous les Rennais, mais effectivement d'autant plus pour des métiers nocturnes comme les nôtres et des métiers qui travaillent le week-end, puisque les moyens de garde existants sont généralement du lundi au vendredi de 9h à 18h. On a essayé de chercher comment mettre en place des crèches privées, comment développer avec les crèches actuelles des horaires différents, en tout cas atypiques. C'est des choses qui sont difficiles à mettre en place parce que ça demande de discuter avec tout un tas de partenaires locaux, parce qu'évidemment tout ça coûte de l'argent et qu'il faut que le plus grand nombre puisse en profiter. Voilà, donc nous on est très ouverts. J'évoquais l'association Parents Bouge à Rennes, qui est une association qui travaille notamment sur ces sujets-là et qui est très active. Je pense que c'est un super partenaire avec qui il va falloir qu'on travaille à l'avenir. Et comme je disais, voilà, tout ça prend du temps, mais on a bon espoir d'y arriver.
Aujourd'hui, l'une des seules solutions, c'est peut-être la garde à domicile, non, mais qui doit être onéreuse sur des tarifs de soirée, voire de nuit, quoi.
Oui, donc nous, nos salaires ne sont pas mirobolants, c'est-à-dire qu'on sait à peu près tous combien on gagne, et ça dépasse pas le salaire médian français, loin de là. Et donc le constat, c'est simplement de voir qu'en fait, ce salaire-là est absorbé par la garde d'enfants. Et donc, malheureusement, on se rend très vite compte aussi que pour moi, par exemple, en tant que femme, qu'il serait plus judicieux de ne pas travailler. Donc, d'arrêter mon restaurant, je pousse un peu exprès pour comprendre la logique, mais donc de mettre 4 personnes au chômage et de pouvoir profiter, par exemple, de mon bébé, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros sujet sociétal au-delà d'un sujet économique qui est là. C'est que, voilà, on est en 2023, on a bien compris que les femmes, elles avaient autre chose à faire que de rester à la maison. Et libre à celles qui souhaitent le faire, il n'y a aucun sujet, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obligatoire et de nécessaire pour pouvoir éduquer nos enfants. De ton filet, sans filet, sans poisson, 1000 poissons, 100 000 poissons, de ton filet.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges. C'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
La mer de Charles Trenet, un petit classique de la chanson française, et c'est le choix musical de Clémentine Guillois qu'on vient d'entendre dans le reportage du jour, un titre de 1946 qui est devenu célèbre grâce à sa version US Beyond the Sea. L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, se poursuit et va se terminer avec la recommandation du jour. Et alors la recommandation du jour, ce sont des petits conseils de choses à voir, à lire ou à écouter, souvent à vivre. Aujourd'hui, on annonce une projection à l'Arvor et c'est ce mardi 7 novembre à 20h15, vous avez encore le temps d'y aller. Le film projeté, c'est La rivière de Dominique Marchais. Dominique Marchais, un documentariste intéressé par les questions de transformation de l'écosystème agricole, paysager et fluvial. pour la rivière. Il a posé sa caméra dans le bassin versant de l'Adour, dans le sud-ouest, pour observer les gaves, ces torrents de montagne qui hébergent encore une riche biodiversité. Ça permet de parler de paysages, de ruralité contemporaine et de problématiques environnementales, d'après une interview qu'il a donnée au journaliste de 20 minutes. La projection du film ce mardi, elle sera suivie d'un échange avec l'association Eau et Rivières de Bretagne et avec le réalisateur Dominique Marchais, qui vient par ailleurs de recevoir le prix Jean Vigo pour ce documentaire qui sortira en salle officiellement le 23 novembre.
La pollution, l'expansion humaine, ici on a détruit des habitats qui permettaient d'avoir une biodiversité spécialisée. On a simplifié les paysages, on a remplacé par une biodiversité mais qui est plus banale, on va dire.
Qu'est-ce qu'on protège en fait ? Plus on apprend à connaître ce qu'on protège, plus on a envie de le protéger.
Ça, c'est un papillon qui est ici encore présent, mais qui a bien diminué aussi. Et c'est celui-là, le grand.
C'est un peu comme une deuxième maison, quoi. C'est la rivière.
L'arène, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h pour le podcast. Rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.